Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 23 mars 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, le président Sall exige des mesures pour arrêter les troubles dans le pays. Au Mali, hausse de 54% du nombre de personnes tuées en 2022, selon l'ONU. Au Burkina Faso, l'armée ravitaille Djibo, une ville du nord, sous blocus djihadiste. L'ex-président français Sarkozy à Kinshasa, sur fond de crise entre la RDC et le Rwanda. 5 migrants noyés, 28 portés disparus au large de la Tunisie et démantèlement en Algérie d'un réseau international de trafic de migrants vers l'Europe. L'ONU, l'ONG Amnesty International, Washington et Londres exhortent le président ougandais Museveni à rejeter une loi anti-LGBTQ. Là, ces pays dénoncent des menaces russes après son mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Entretien téléphonique entre Téhéran et Riyad à l'occasion du Ramadan. Ouverture hier à New York de la première conférence de l'ONU sur l'eau depuis près d'un demi-siècle. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le président Macky Sall a demandé hier à son gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public après des troubles liés à un procès de l'opposant Ousmane Sonko qui ont fait au moins un mort, Michel Joseph.
Selon un communiqué officiel, M. Sall a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour assurer la sécurité absolue des biens et des personnes. Il a parlé de l'impératif de préserver les acquis démocratiques et l'ordre public au Sénégal, pays qui a la réputation d'être un rare îlot de stabilité dans une région troublée. Un homme a été tué mardi dans le sud du pays, en Casamance, dans des heurts entre partisans de M. Sonko et forces de l'ordre, selon un élu local et un responsable administratif. Depuis le 16 mars, jour du début du procès de M. Sonko, poursuivi en diffamation par le ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes. L'audience a été renvoyée au 30 mars. M. Sonko a quitté mardi la clinique privée de Dakar, où il était hospitalisé pendant 5 jours, a-t-on appris mercredi auprès de son parti. Il a déclaré lundi y avoir reçu des soins après un malaise dû à un produit toxique, dont il dit avoir été aspergé lors de son transfert contraint par les forces de l'ordre vers le tribunal de Dakar pour son procès. Par ailleurs, et selon Ousseynou Ly, un responsable du parti de M. Sonko, la police a placé mercredi soir en garde à vue le responsable de la communication de ce parti, El Malik Ndiaye, pour ce qu'elle a appelé « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions ». Il est reproché à M. Ndiaye une publication sur Facebook parlant d'une substance inconnue qui aurait été aspergée sur M. Sonko, a indiqué M. Ly. M. Sonko et ses partisans dénoncent ce qu'ils appellent une instrumentalisation de la justice par le pouvoir pour l'éliminer politiquement.
Au Mali, le nombre de personnes tuées a augmenté en 2022 et de 54% par rapport à 2021 et 35% des violations des droits humains ont été imputées au FDS, Force de défense et de sécurité, selon un rapport de l'ONU consulté mercredi par l'AFP. Les groupes djihadistes sont les principaux responsables des violences avec 56% des violations enregistrées selon la même source. S'agissant des forces de défense et de sécurité, 694 violations des droits de l'homme, soit 35% du nombre total de violations, sont imputables à leurs éléments, quelquefois accompagnées par du personnel militaire étranger, a indiqué la MINUSMA. Nous n'avons pour l'instant aucune réaction des autorités maliennes. L'armée burkinabé a ravitaillé mardi Djibo, une ville du nord sous blocus de groupes djihadistes depuis plusieurs mois, empêchant l'approvisionnement régulier en vivres. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires et locales. Le point avec Rosine Mounezero.
Une centaine de camions remplis de vivres et de produits de première nécessité et sous escorte militaire a pu atteindre Djibo mardi pour approvisionner les populations en détresse depuis plusieurs mois, a indiqué une source sécuritaire. Depuis ce matin, il y a des chants de joie dans la ville. La vie reprend, s'est réjouie Amsatou Diko, une habitante de Djibo. Parti de Kongoussi le 28 février, le convoi a mis une vingtaine de jours pour parcourir les quelques 95 kilomètres menant à Djibo, en raison notamment des nombreux engins explosifs artisanaux qui parsèment ce tronçon, a indiqué une source sécuritaire. Une première tentative de ravitaillement avait eu lieu en janvier, mais le convoi avait dû finalement rebrousser chemin, a indiqué Idrissa Badini, porte-parole d'un groupement d'organisations de la société civile de la province du Soum, dont Djibo est le chef-lieu. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui se multiplient et qui ont fait plus de 10 000 morts.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé mercredi à Kinshasa pour une visite privée durant laquelle est néanmoins prévu une rencontre avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur fond de crise entre la RDC et le Rwanda, a-t-on appris de sources aéroportuaires et officielles congolaises. Selon la lettre d'information Africa Intelligence, qui a révélé ce déplacement censé rester confidentiel, M. Tshisekedi aurait sollicité l'ex-président français pour faciliter une amorce de dialogue avec le président rwandais Paul Kagame, dont Nicolas Sarkozy est proche. La venue dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC, a affirmé sur Twitter Tina Salama, porte-parole de M. Tshisekedi, en ajoutant « Il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à M. Sarkozy ». En Algérie, les autorités ont démantelé un réseau international de passeurs de migrants vers l'Europe à travers l'Algérie. C'est ce qu'ont indiqué hier des médias locaux. 15 membres de ce réseau, 9 Syriens et 6 Algériens, ont été interpellés par le service central de lutte contre le crime organisé et présentés devant la justice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU, Amnesty International, Washington et Londres ont demandé mercredi au président ougandais Yoweri Museveni de rejeter une loi contre l'homosexualité adoptée la veille par le Parlement en la critiquant vivement. Le Parlement ougandais a voté mercredi soir lors d'une séance agitée une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles. La Maison-Blanche a elle mis en garde contre de potentielles conséquences économiques si la loi entre en vigueur. La Cour pénale internationale a dénoncé des menaces de la Russie à l'encontre de ses membres après qu'elle a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens, Nathalie Barge.
Dans un communiqué, l'organe législatif de la Cour pénale internationale a déploré des tentatives d'entrave des efforts internationaux visant à garantir la responsabilité des actes interdits par le droit international général. La Russie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la Cour pénale internationale après l'émission du mandat d'arrêt visant le président russe Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Lova Belova. Par ailleurs, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a conseillé sur Telegram aux juges de la CPI de regarder attentivement dans le ciel en allusion aux capacités de frappe russes. Le procureur de la CPI, Karim Khan, qui enquête sur d'éventuels crimes de guerre commis pendant l'offensive russe, a estimé par milliers le nombre de déportations présumées d'enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires contrôlés par Moscou. Selon Kiev, plus de 16 000 enfants ont été déportés vers la Russie depuis le 24 février 2022 et beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil.
La première conférence de l'ONU sur l'eau depuis près d'un demi-siècle se tient depuis hier à New York, ici aux États-Unis. Jacques Aristide.
Nous avons détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines, a dit le patron de l'ONU à l'ouverture de ces trois journées qui doivent accueillir plus de 6 500 participants, dont une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État et de gouvernement. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation empirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète, a ajouté Antonio Guterres, s'inquiétant de l'avenir compromis de l'eau, pourtant la sève de l'humanité et un droit humain. Un rapport de l'ONU Eau et de l'UNESCO publié hier parle du risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Pour assurer l'accès de tous à l'eau potable d'ici à 2030, il faudrait multiplier les niveaux d'investissement actuels par 3 au moins, écrivent les auteurs. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie décente est directement lié à l'eau, notre santé, la nourriture, les habitats, l'économie, les infrastructures et le climat, a déclaré le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, coprésident de la conférence avec le chef de l'État du Tadjikistan.
A publié mardi un décret revalorisant le SMIG, désormais ventilé en 3 catégories. Le plancher, un peu plus de 59$ depuis juillet 2014, est désormais de 68,8$ pour les agents de l'État et autres employés relevant du Code du travail, 74$ pour les travailleurs du secteur agricole et 98,5$ pour les autres catégories. L'économie nigérienne a maintenu une trajectoire de croissance positive pendant 9 trimestres consécutifs depuis sa sortie de la récession en 2020, a annoncé mardi la Banque centrale du Nigeria. Cette performance a été largement due à la croissance soutenue des secteurs des services et de l'agriculture, a déclaré le gouverneur de la banque qui s'inquiète toutefois de l'augmentation de l'inflation. La Banque mondiale a décaissé 100 millions de dollars pour améliorer les infrastructures routières à Madagascar, a annoncé mardi le ministère malgache de l'économie et des finances. Selon ce ministère, il s'agit d'un financement additionnel en faveur du projet de développement durable du secteur routier à Madagascar. Un projet qui a pour objectif d'entretenir environ 1200 km de routes principales du pays, ainsi que de garantir la longévité, la sécurité et la résilience climatique des routes.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite ce jeudi des matchs de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023.
Oui, avec un seul point enregistré en 2 journées chacun, la République centrafricaine et Madagascar s'affrontent dans une opération relance dans le groupe E. Les deux premiers du groupe, le Ghana et l'Angola, 4 points chacun, se disputent le leadership de cette poule. Opération relance aussi pour le Soudan du Sud, 0 points jusqu'ici, et qui affronte le Congo. Dans le groupe H, la Zambie voudra conforter sa 2e place devant le Lesotho. Suspense dans le groupe I, où le 2e, le Gabon, accueille le Soudan. Le dernier match de ce soir oppose l'Algérie et le Niger dans le groupe F.
Le Bénin a enregistré hier son premier point dans ses éliminatoires.
Les Guépards ont arraché le match nul 1-0 devant les Amavubi du Rwanda. Le Bénin reste dernier du groupe, derrière le Rwanda 2e avec 2 points. Le Sénégal est premier avec 6 points, suivi du Mozambique 4 points. Dans le second match de la journée d'hier, la Sierra Leone et Sao Tomé et Principe se sont aussi neutralisés 2-0. Ce match nul ne change rien au classement des deux formations dans la poule A. La Sierra Leone garde sa 3e position devant Sao Tomé et Principe. Le Nigeria et la Guinée-Bissau jouent les premiers rôles dans cette poule.
L'Olympique lyonnais condamne les comportements racistes visant Oussem Aouar.
Le club français a condamné les sifflets et insultes racistes qui visent son milieu de terrain après le choix de ce dernier de représenter sportivement l'Algérie. Entré en cours de jeu contre Nantes vendredi dernier au Groupama Stadium, Oussem Aouar a en fin de contrat en juin avec l'OL et en baisse de régime depuis plusieurs mois, a été sifflé alors que des supporters avaient entonné la Marseillaise pour marquer leur désapprobation de son choix. Le milieu de terrain algérien de 24 ans est par ailleurs l'objet d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le football est universel, a déclaré l'OL dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Awa, produit de la formation lyonnaise, a officialisé le 16 mars sa décision de représenter sportivement l'Algérie après avoir été international espoir français et avoir obtenu une sélection avec l'équipe A.
Merci. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, plus de 400 rebelles ont été condamnés à la prison à vie par la justice, notamment pour atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby Itno. Parmi les personnes condamnées figure Mahamat Mahdi Ali, leader du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Joint par Mohamed Houmfa, il dénonce une parodie de justice.
Surpris, non, on sait très bien que de temps en temps, des mascarades, des simulacres de justice pareils sont organisés par la dictature et la junte au Tchad. Ça, c'est un non-événement. On sait très bien que même dans le passé, il y a d'autres personnalités politiques pour faire des rébellions et des résistances contre la dictature ont été condamnés à mort. C'est un non-événement, ça. Ce qui est condamnable, ce qu'il faut dénoncer avec toutes les forces, c'est le traitement qui a été réservé à des prisonniers de guerre qui, normalement, doivent être régis par la Convention de Genève, qui, normalement, ne doivent pas être traînés devant les tribunaux de droit commun.
Les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte d'une prison à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, ce qui fait dire à plusieurs organisations de défense des droits de l'homme qu'elles n'étaient pas équitables. Quel est votre avis?
C'est une comédie qui cherche à distraire l'opinion. C'est une imposture. Ce qui s'est passé là est tout sauf justice. Donc s'il y a justice dans ces pays-là, il faut rendre justice à Gnouma, supplicié par le régime dictatorial.
Le procès n'était peut-être pas équitable, mais les accusations sont bel et bien graves. On parle quand même de l'assassinat d'un chef d'État, non?
Je ne sais pas quel sens vous donneriez au mot assassinat. Dans notre entendement, l'assassinat doit logiquement s'entendre par préméditation de l'acte. L'acte n'a jamais été prémédité. Idriss Déby, il était combattant, belligérant, comme tous les autres belligérants. Il est parti au terrain, il est mort au terrain. Les conditions dans lesquelles il serait mort, là, c'est à ses camarades, à ses gardes de l'expliquer. D'ailleurs, ce jour-là, nous avons perdu aussi nos camarades. Et encore pire, il y a certains de nos camarades qui ont été faits prisonniers et sont passés par les armes sans aucune autre forme de procès.
Vous dites que les conditions dans lesquelles le président Déby est mort, il faut voir du côté de ses gardes. Ça veut dire que le FACT nie toute responsabilité dans cette mort?
Nous avons appris, comme tout le monde, de par les médias, que Idriss Déby est mort. On ne sait pas comment il est mort. On nous dit qu'il est venu au combat, il est mort. Et ceci d'autant plus que ce n'est pas nous qui avons récupéré sa dopie. Et donc, les conditions dans lesquelles il est mort et comment il est mort, là, c'est en face qu'il faut les voir.
Alors, maintenant qu'il y a eu ces condamnations à la prison à vie, quelles peuvent être les conséquences de ce verdict pour vous-même et pour la lutte que le FACT mène depuis quelques années?
C'est un non-événement. La lutte des FACT continue. Nous, lorsque nous avons affirmé notre prédisposition à vouloir aller dialoguer et faire la paix, ce n'est pas uniquement avec la junte, mais avec tous les Tchadiens. Notre offre de dialogue et de réconciliation et de discussion avec tous les Tchadiens, elle est là. Mais nous prenons acte. La junte vient, par cet acte-là, rejeter toute démarche tendant à régler les problèmes tchadiens par la paix et par le dialogue. Là, il faut que ça soit clair à tout le monde. Les vaches en guerre, c'est en face, c'est pas nous.
Mahamat Mahdi Ali, leader du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Tchad toujours, le ministère de l'eau et de l'assainissement a célébré le 22 mars la journée mondiale de l'eau autour du thème « Accélérer le changement pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». Dans les rues de N'Djamena, les consommateurs estiment que l'accès à l'eau potable demeure un problème que les autorités de transition doivent résoudre pour soulager la souffrance des citoyens. Notre correspondant sur place, André Kotmadjingar.
Le Tchad pays sahélien dispose d'une grande quantité d'eau, à savoir des eaux souterraines, des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement. À cela s'ajoutent les eaux minérales produites par plusieurs entreprises et la société tchadienne d'eau, la STE, dont la mission est de distribuer de l'eau potable aux citoyens. Pour Bedaou Omar Kaman, démographe, géographe de formation et consultant indépendant, la qualité de l'eau de boisson fournie par la STE est douteuse.
Lorsque vous mettez un filtre et que vous versez du robinet dans le filtre avant de boire, vous allez être surpris par la quantité de saleté et de suspension que le filtre retient, sans pour autant parler encore de microbes. Et ça veut dire que toutes ces saletés-là devraient se retrouver dans le corps des gens. Et comment voulez-vous que les gens ne souffrent pas de typhoïdes, de palus et autres maladies liées à la consommation de l'eau? Parce qu'il y a des tuyaux qui ont été mis pendant la décolonisation. Ces tuyaux-là sont rouillés. Et quelquefois, quand les tuyaux sont cassés dans les caniveaux, quand la pression est très faible, mais l'eau de dehors là, entre dans les tuyaux et se retrouve dans nos robinets. Mais personne n'en parle.
Les consommateurs se plaignent également au micro de VOA Afrique de la qualité d'eau qu'ils consomment chaque jour.
Dans la ville de N'Djamena, en général même, c'est difficile d'accéder à l'eau potable pour faire des châteaux dans les coins. C'est pas facile. Il faut d'abord aller négocier, il faut d'abord faire des corruptions. Donc, nous sommes déjà habitués avec.
Chez nous, on ne boit pas de l'eau propre. En bas, à la tour, les eaux sont sales. Quand tu mets seulement après, ça devient rouge. Après, on met de l'eau déjà belle, on voit seulement. On tombe souvent malade. On n'a pas d'autre solution.
Chez moi, à Tron, il y a des eaux potables et d'autres fois, on trouve aussi des eaux non potable. Nous demandons au gouvernement d'essayer de voir un peu certaines zones, parce que ce n'est pas dans toutes les zones qu'on trouve de l'eau potable.
Non seulement la qualité de l'eau que les Tchadiens consomment aujourd'hui pose problème, mais elle n'est pas accessible à tous. Depuis 2017, un arrêté des autorités en charge de gestion de l'eau a revu en hausse le prix du mètre cube.
Cet arrêté la multiplie par 6. Le coût de l'eau.
Bedaou Omar Kaman, démographe, géographe de formation et consultant indépendant, s'est dit très choqué par ces nouveaux prix.
Avant, tous les deux mois, je paye entre 3 000 et 5 000 francs. Aujourd'hui, par mois, je fais jusqu'à 19 000. On est parti même jusqu'à 25 000. Ce que je paye en deux mois aujourd'hui, avant je payais en une année. Est-ce que c'est normal?
Le secrétaire général adjoint du ministère de l'eau et de l'assainissement, Nour Saleh Agar, rassure que le gouvernement ne lésinera pas sur les moyens pour soulager la souffrance des citoyens d'ici 2030.
Le gouvernement du Tchad a consenti d'énormes efforts pour booster le taux d'accès à l'eau potable à ces jours à plus de 63%. Des efforts sont en cours avec l'appui de nos partenaires techniques pour honorer notre engagement et celui d'améliorer le taux d'accès jusqu'à 80% pour l'eau potable et 60% pour l'assainissement à l'horizon 2030.
Une analyse physico-chimique de l'eau réalisée en 2009 par le laboratoire de l'eau et de l'environnement montre que l'eau produite par la société tchadienne d'eau a des concentrations de plomb significativement élevées jusqu'à 6 fois la norme. André Kordoma Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
L'accès à l'eau potable reste faible au Cameroun selon le rapport 2018 de l'Institut national de la statistique. Le taux moyen d'accès à l'eau potable est de 77% en milieu urbain et 45% en milieu rural, ce qui fait de ce précieux liquide une denrée rare. Dans les grandes métropoles comme Yaoundé et Douala, les populations sont ravitaillées au quotidien. Notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Tap.
Pour obtenir de l'eau potable ce jour, les résidents de certains quartiers de Yaoundé se sont rendus dans 19 points de ravitaillement communiqués à l'avance par la CAMWATE, la société chargée du service public de l'eau potable et de l'assainissement au Cameroun. À ces points, des camions-citernes stationnent pour distribuer de l'eau aux consommateurs. Stéphane Kanga est un jeune étudiant et exprime son insatisfaction.
Satisfait, je dirais non. À plusieurs niveaux. Vous savez, quand on dit quelque chose est disponible, ça veut dire qu'à tout moment, on doit l'avoir. Moi, je suis au quartier Kounou. L'eau vient dans mon quartier deux fois par semaine, samedi et dimanche. Ça veut dire que toute la semaine, il n'y a pas d'eau.
Les robinets sont restés à sec entre lundi dernier et ce mercredi dans plusieurs quartiers, y compris les quartiers résidentiels de Yaoundé. Situation similaire le 20 mars dernier à Mokolo, Mora et Koza, des localités de la région de l'extrême nord. La direction de la communication de la CAMWATE explique que ces désagréments sont causés par des coupures d'électricité dans les stations de distribution de l'eau du pays. Mais le faible taux de raccordement des ménages au réseau d'eau potable est préoccupant dans les trois régions de la partie septentrionale du Cameroun. Michael Salik Douba, paysan au village Sakdje, dans la région du Nord.
Pour avoir d'eau ici, il faut creuser des puits d'eau et ça tarit. Il n'y a pas assez d'eau. Avec ce manque d'eau, des fois on part dans les rivières pour chercher de l'eau.
Pour pallier aux besoins en eau de qualité dans ces zones reculées de la région du Nord, des particuliers ont entrepris de faire don des forages dans des villages. Franklin Yebga, pasteur de la mission de sainteté africaine, est l'un de ses donateurs dans la localité de Lakdo.
J'ai fait le tour de Lakdo, j'ai vu que le problème d'eau était très sérieux. C'est donc comme ça que je décide, me disant que si j'ai des moyens un jour, je vais répondre à ce besoin crucial en leur fournissant de l'eau potable, notamment ce forage que vous voyez aujourd'hui.
À Yaoundé, les Camerounais font de plus d'espoir sur la fin des travaux en avril prochain du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville et ses environs qui va apporter 400 000 mètres cubes par jour. Et à Douala, le président Paul Biya a annoncé le lancement en 2023 d'un méga projet d'adduction d'eau potable. Les perturbations dans la distribution de l'eau potable ont favorisé l'expansion des sociétés qui offrent des services d'aménagement des forages pour un coût minimal de 5 millions de francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, le Millennium Challenge Accounte lance les travaux du projet de construction de 20 collèges de proximité d'ici 10 mois dans deux régions du pays. Il s'agit de 12 écoles dans la région centrale de Boaké et de 8 autres à San Pedro, dans le sud-ouest, le tout pour un financement global de 26 milliards de francs CFA. C'est un projet du MCC du gouvernement américain. Le point avec Delphine Bovise, notre correspondante à Abidjan.
Le gouvernement américain apporte son appui à la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation nationale. Ces collèges de proximité seront construits dans les zones rurales de deux régions du pays. À l'étape de la région du Boaké, dans le centre, qui bénéficie de 12 collèges, c'est Thieblé, un village de la commune de Boaké, qui a abrité la cérémonie de lancement officiel des travaux de la pose de la première pierre. Sonia Charigiane, directrice pays résidente du Millennium Challenge Corporation.
Ce sont des dizaines de collèges de proximité avec une à Boaké et l'autre à Saint-Pédro.
Pour la directrice générale du Millennium Challenge Accounte Côte d'Ivoire, Florence Rajane affirme qu'à travers ces infrastructures financées par le gouvernement américain, il s'agit de rapprocher l'école des familles.
Au travers de votre forte mobilisation, c'est le témoignage de votre adhésion à ce don du peuple américain pour bâtir des infrastructures scolaires afin de rapprocher l'école des familles.
Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeur Maria Toukone, salue ce partenariat qui vient relever plusieurs défis.
Les collèges pourront accueillir des milliers d'élèves dans un environnement sécurisé et favorable à des apprentissages de qualité. Il s'agit en plus de mettre fin aux soucis des parents concernant les questions de tuteur.
Abdourahman Sissé est le président du conseil d'administration du Millennium Challenge à Compte Côte d'Ivoire. Il estime que la construction de ces collèges de proximité s'inscrit dans la vision du chef de l'État ivoirien, celle de renforcer le capital humain fondamental au développement.
Ce projet de construction des collèges de proximité vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation et la formation de nos jeunes est au cœur du programme de développement du président de la République.
Les cadres de la région du Boaké saluent l'initiative américaine.
Ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui seront nettement améliorées.
Ce collège de proximité, ça va rendre de grands services au canton de Ramois.
C'est un ouf de soulagement pour la communauté.
Lorsqu'on est chef de village, la première vision qu'on a, c'est le développement. Ça part de l'éducation.
Nos enfants se déplacent à des milliers de kilomètres. Avec la venue de ce collège-là, c'est une joie pour nous.
Et les élèves s'en réjouissent à l'image de grâce à moi. témoin Kofi, futur bénéficiaire de ce collège.
Au niveau du logement, c'est facile ici. La plupart nous vivons en famille. Ici, c'est facile de trouver de la nourriture et nos professeurs sont proches de nous.
L'ensemble de ces collèges de proximité ouvriront leurs portes dès la rentrée scolaire de septembre 2024 et selon les donateurs. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h.